France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est l'une des principales fêtes religieuses du pays. On estime qu'entre 4 millions et 4 millions et demi de Français la célèbrent. Le Ramadan a débuté lundi en France et pour un mois de célébration pour les musulmans, durant lesquels les fidèles doivent respecter le jeûne du lever au coucher du soleil. Pas d'eau, pas de nourriture. Fête religieuse, je l'ai dit, mais aussi une fête de plus en plus familiale et commerciale. On va parler de tous ces aspects, mais aussi de l'islam, méconnu par de nombreux Français, de sa pratique aussi en France, avec nos invités, Homero Maronjou Peria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et théologien, spécialiste de l'islam. Avec nous également, Eliamine Setoul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence au Conservatoire National des Arts et Métiers, docteur en sciences politiques à Sciences Po Paris également. J'attends pour vous les questions des auditeurs. 01 45 24 7000 et via l'application France Inter. Eliamine Setoul, le Ramadan, c'est la fête la plus importante de la religion musulmane?
C'est une fête, c'est plutôt un mois de un peu festif, effectivement. On ne considère pas ça comme une fête, mais effectivement, c'est très suivi. C'est,
ça peut être aussi festif.
Ça devient festif, en fait. La subtilité, c'est que ça devient de plus en plus festif, alors qu'à l'origine, c'était plutôt une pratique ascétique destinée aux croyants, destinée à lui permettre de ressentir ce que ressentent finalement les gens démunis, les nécessiteux. Donc on est passé d'une démarche ascétique à une démarche beaucoup plus, je dirais, festive.
En quoi est-ce qu'elle consiste? On retient souvent le jeûne du lever au coucher du soleil.
Oui, alors interdiction de boire, de manger, d'avoir des relations sexuelles, mais aussi, et c'est plus méconnu, de médire, de mentir. Et tout ça, c'est aussi important que la dimension, je dirais, alimentaire.
Homero Maronjou Peria, le Ramadan trouve ses racines avant même l'apparition de l'islam?
Oh, c'est une pratique qui est inscrite dans toutes les religions. On la trouve mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible.
Vous voulez dire la pratique du jeûne?
Oui, tout à fait, tout à fait. Hein. Moïse qui jeûne 2 fois 40 jours avant de recevoir, du moins avant et après avoir reçu les tablettes de la loi, etc. Donc on a tout un ensemble de personnages, des prophètes qui sont mentionnés comme ayant pratiqué le jeûne.
C'est-à-dire qu'il y a des racines communes, par exemple, avec le carême des chrétiens, qui a débuté le 14 février.
Le jeûne est associé à la fois à des pratiques d'expiation, donc on veut se faire pardonner auprès de la divinité, de remerciement, on veut remercier la divinité, et puis comme l'a très bien souligné Eliamine Setoul, d'une pratique d'ascèse, on jeûne pour se fortifier le corps et l'esprit. Donc on le trouve mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, dans le Coran, à travers ces différentes facettes.
Se rapprocher des nécessiteux, Eliamine Setoul, de ceux qui ont peu, réfléchir, ne pas mentir, et puis il y a la solidarité, il y a cette dimension aussi qui est importante dans ce mois.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, les personnes qui n'ont pas physiquement les capacités de faire le Ramadan, on leur demande, si possible, de nourrir des pauvres, en fait. On peut remplacer ces journées de Ramadan par la fourniture de repas aux nécessiteux. On voit bien toute la dimension cohésive et la dimension de solidarité.
Combien de Français seraient aujourd'hui de confession musulmane et combien pratiquent le Ramadan? Est-ce qu'on le sait?
Alors, on a vraiment des estimations très à la louche, parce que qu'est-ce que c'est être un musulman aussi, c'est une question. Est-ce que c'est faire les 5 prières par jour, ou est-ce que c'est avoir un prénom musulman et puis ne pas manger de porc? Il y a toute la définition qui...
Oui, ça vaut pour toutes les religions,
exactement.
J'ai envie de dire. À quel moment est-ce qu'on est pratiquant?
À la louche, hein, 70 à 80% des musulmans. C'est une pratique qui est très suivie.
Parfois, de plus en plus, vous diriez?
Pas de plus en plus, ça me semble stable, mais les musulmans suivent cette pratique parce qu'il y a une dimension très affective. Les gens qui font le Ramadan, très souvent, ils le font en famille. Et vous avez des gens qui se sont un petit peu éloignés de la religion, mais qui, malgré tout, continuent de faire le Ramadan parce qu'il y a cette dimension affective qui leur rappelle peut-être aussi leur relation avec les parents, le foyer familial, etc.
Justement, Homero Maronjou Peria, est-ce qu'on sait si les jeunes pratiquent davantage que les anciens ou inversement?
Vous savez, en France, il est interdit de faire des statistiques sur la base de l'appartenance religieuse, du moins des recensements plutôt.
Il peut y avoir des enquêtes sociologiques, des entretiens, par exemple, qui peuvent montrer que les jeunes suivent davantage que les anciens, ou inversement, ce que je disais.
Oui, effectivement, on a la tranche d'âge des jeunes sur du déclaratif, qui, grosso modo, les 1834 qui affirment être plus assidus, on va dire, dans la pratique du jeûne. Mais il faut bien différencier ce que les gens déclarent des pratiques effectives. Le jeûne, c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de musulmans qui affirment jeûner que prier, par exemple, parce qu'il y a toute une dimension communautaire, d'attachement familial, c'est toute une histoire, c'est l'histoire d'une famille, d'un groupe confessionnel. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de monde qui disent ben, « moi je pratique le ramadan », à voir s'ils le pratiquent réellement par la suite tout au long du mois.
Eliamine Setoul, ça pose aussi la question du libre-arbitre. Ça ne doit pas être forcément simple quand on n'a pas envie de pratiquer le ramadan dans sa famille, puisqu'il y a une très forte dimension familiale.
Oui, alors quand on est mineur, effectivement, mais ce qu'on observe très souvent, c'est plutôt des enfants qui veulent faire comme les grands et qui veulent un peu mimer le comportement des grands. Donc très souvent dans les familles, les enfants veulent jeûner, même quand, parce qu'en théorie, c'est plutôt à partir de l'adolescence qu'on, ouais, qu'on jeûne. Mais vous avez parfois des enfants qui ne sont pas adolescents et qui veulent faire un jour de ramadan ou deux jours de ramadan. Donc on est plutôt dans une logique de vouloir mimer les parents plutôt que des parents qui voudraient imposer à tout prix cette pratique à leurs enfants. C'est difficile à imposer d'ailleurs.
Quelle est l'évolution de ces dernières années ? Vous me disiez, l'idée c'est aussi de se rapprocher de ceux qui n'ont rien en ne mangeant pas du lever au coucher du soleil. On se rend compte que c'est aussi une fête qui est devenue commerciale et la dimension festive prend de plus en plus de place.
Tout à fait. Je pense qu'on observe ce qu'on observe aussi dans d'autres fêtes religieuses et pas forcément musulmanes. C'est une dynamique de globale de consumérisme en fait, hein, puisque déjà d'une part, faut savoir que le marché du Ramadan c'est un marché colossal qui pèse plusieurs milliards. Donc c'est aussi un enjeu.
Plusieurs milliards dans le monde, vous voulez dire ?
Plusieurs milliards. Le marché du halal en France c'est plusieurs milliards.
D'accord.
Et le marché du Ramadan c'est plusieurs, au moins centaines de millions, je pense.
Centaines de millions en France ?
Oui, en France.
Donc un marché de plus.
Donc un marché de plus en plus important. On voit l'émergence d'une gamme de produits alimentaires qui n'existait pas il y a quelques années. On voit des nouvelles choses que moi je voyais pas il y a encore 10 ans. C'est des produits décoratifs, par exemple. Donc on va décorer des pièces avec des objets de décoration liés au Ramadan.
Comme il y a les guirlandes de Noël, il y a des objets de déco autour du Ramadan.
Tout à fait. Et parfois, il y a une forme de nostalgie chez certains, les plus anciens, de se dire que finalement, c'est devenu trop festif. Un petit peu comme ces aînés qui nous parlent de Noël des années 50-60, où on offrait une orange et on était heureux. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une espèce de surconsommation.
Ou débauche, surconsommation qui peut gêner
parce que elle n'entre pas en congruence avec la dimension spirituelle originelle de cette pratique.
Homero Marron Djouperia, est-ce que c'est une évolution française, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'est une évolution qu'on constate dans d'autres pays ?
Non, c'est une évolution globale. D'ailleurs, l'un des indicateurs, il y a au moins deux indicateurs. Le premier, c'est que dans certains pays, je pense notamment aux pays du Golfe, les urgences sont saturées durant les premières nuits du Ramadan à cause de la surconsommation. Et puis, le deuxième aspect, c'est tout l'environnement festif qui se traduit aussi par beaucoup de gaspillage. Donc il y a des évaluations qui sont faites pour les pays du Maghreb, par exemple, de pain qui est jeté, etc. Donc ça se traduit en centaines de tonnes qui sont jetées comme ça à cause de la surconsommation, en tout cas du surachat.
Et ça pose question, je suppose. Ça fait aussi débat. Oui, évidemment.
Tout à fait, ça fait débat, puisque au niveau religieux, on va dire dans les sphères culturelles, les imams aujourd'hui sont amenés à faire des discours sur la contenance, on va dire, et le fait d'être plus frugal, on va dire, durant
la sobriété.
La sobriété heureuse du Ramadan.
Eliamine Setoul, je poursuis la comparaison que vous initiez avec une fête comme Noël. Est-ce qu'il y a aussi pour le Ramadan une dimension culturelle, des films, des séries, des musiques?
Oui, tout à fait. Ça a été observé par des sociologues spécialisés sur les médias. Pendant le mois de Ramadan, très souvent, on voit un rapprochement familial. On voit par exemple des enfants qui vivent à Paris, qui rejoignent leurs parents le week-end. Et très souvent, il y a l'émergence aussi d'une production médiatique culturelle, du théâtre, des sitcoms, des films, des séries, notamment des pays d'origine, du Maghreb ou d'Asie. Et on regarde ça en famille. Et ça, c'est un élément assez intéressant à observer.
Donc, il y a un business aussi autour de ça, autour d'une création audiovisuelle dédiée à cette période.
Tout à fait, il y a un business. Et puis, oui, il y a une dimension aussi... de à la fois de business et puis de plaisir culturel en famille.
Alors, le jeûne du lever au coucher du soleil, c'est évidemment très contraignant. Quelles sont les contraintes? On a une question sur ce sujet, Yamine Setoul. Pour les enfants à l'école, est-ce qu'ils pratiquent le ramadan?
Alors les enfants, la tradition, c'est à partir de l'adolescence. Ensuite, à ma connaissance, il peut y avoir des enfants qui le font. Qui le font pas un mois en général, parfois certains vont tenter un jour, deux jours, trois jours, mais ça reste extrêmement marginal.
Très peu d'enfants, en tout cas,
oui,
c'est... D'accord.
Très peu. La tradition, c'est plutôt à partir de l'adolescence, donc le collège et le lycée.
Mais ça veut dire au collège, au lycée, Homero Marron de Jouperia, ça veut dire aussi pour tous les Français de confession musulmane qui travaillent dans leur entreprise, dans les administrations. Comment se passe la coexistence entre les musulmans pratiquants et les autres? Est-ce qu'on a des informations là-dessus?
Oui, alors moi, dans ma pratique professionnelle, au moins depuis le début des années 2000, il y a pas mal de collectivités territoriales qui ont fait des aménagements de plages horaires pour le travail. Alors pas pour le Ramadan à proprement parler, mais pour la prise en compte de toutes les nécessités personnelles, on va dire, des fonctionnaires territoriaux. Et le Ramadan a été intégré dans ces discussions. Donc on voit que c'est une
ça veut dire que les horaires sont réduits. Comment ça se passe concrètement?
Non, pas réduit, c'est-à-dire que vous avez des plages incontournables. Vous savez, dans certaines entreprises aujourd'hui, il faut être présent de 9h à 11h30 et de 13h à 15h30, par exemple. Et après, donc, les 35 heures sont modulables. Si un salarié veut rester un peu plus tard ou venir un peu plus tôt en cours de semaine, il a la possibilité de faire ses aménagements à partir du moment où il respecte les plages incompressibles, bien entendu, et qu'il fasse ses 35 heures, bien entendu. Et ça, on voit que le Ramadan ne pose plus tellement de problèmes. Alors, de toute façon, il posera de moins en moins de problèmes puisque nous arrivons en période hivernale maintenant pour la pratique du jeûne.
Parce que le jeûne se décale d'année en année, Homero Marron de Jouperia.
Tout à fait. Chaque année, il avance de 10 ou 11 jours. Donc, la période estivale était la plus problématique puisque l'amplitude allait jusqu'à 18h30 dans le nord de la France. Donc, on imagine bien que pour certaines entreprises, il y avait une inquiétude sur la capacité d'un salarié ou en milieu scolaire, la capacité d'un élève d'être attentif durant toute la journée s'il jeûne, bien entendu.
Et il y a de plus en plus d'entreprises dans lesquelles il y a ces accords dont vous parliez?
Bah, en tout cas, pour les grands groupes, c'est quelque chose qui a entériné depuis pas mal d'années. Alors, je répète encore une fois, pas uniquement pour le Ramadan, sinon on pourrait croire que c'est un aménagement spécifique, mais pour tout ce qui concerne les couples ayant des enfants, les nécessités de garde, etc. Donc, on a la prise en compte, on va dire, de ce qu'on appelle l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là que les aménagements pour la pratique du jeûne sont opérés.
Et Yamine Setoul, on voit les tensions qui ont pu être provoquées autour du port du voile ou de l'abaya ces derniers mois, ces dernières semaines. Certains directeurs d'établissements en Ile-de-France l'ont manifesté il y a quelques jours. Est-ce qu'on a aussi ce type de tension autour du Ramadan ou pas du tout?
Oui, de manière plus générale, il y a un déchaînement parfois sur les réseaux sociaux, notamment de propos islamophobes ou anti-musulmans. Mais il me semble que ça ne reflète pas la tendance globale, qui est plutôt la tendance d'une normalisation, d'une banalisation de cette pratique dans le paysage national.
Vous diriez ça?
Je pense que oui. Je pense que autant dans les années 80, faire le Ramadan, ça avait quelque chose d'exotique. Aujourd'hui, on voit des panneaux de 4x4 avec de la publicité pour des produits alimentaires du Ramadan. Ça rentre, qu'on le veuille ou non, dans l'imaginaire français.
Homero Marron de Jouperia, est-ce que vous faites la même analyse?
Oui, je rejoins tout à fait Yamine Setoul, c'est-à-dire que, en fait, le Ramadan est considéré aussi sous un angle culturel par rapport à d'autres pratiques de l'islam, et il est beaucoup mieux intégré, je dirais, en tout cas, il est beaucoup mieux perçu. Sauf dans certaines situations bien spécifiques. Je pense notamment au milieu scolaire quand des élèves sont en véritable défaut d'attention. Hein, c'est une réalité. Parfois, des professeurs disent des élèves sont affalés parce qu'ils sont trop fatigués, on va dire. Mais mis à part ces cas spécifiques, on voit bien que dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas de... Les seules jurisprudences que j'ai vues, moi, elles dataient d'il y a quelques années quand le Ramadan était en plein été et que des animateurs, par exemple, ne pouvaient pas exister parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas suffisamment efficaces pour l'accompagnement de jeunes, par exemple.
Merci à tous les deux, Homero Maronjou Peria, théologien spécialiste de l'islam, et Yamine Setoul, maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers.